Jus de chocolat. Marceau s'en vient. Prendre soin de vous autres. On se reparle demain. Bye, les amis.
Ta bière de micro, tu l'aimes locale? Ben, c'est comme ta radio. Des animateurs qui se retrouvent sur les mêmes terrains de soccer que toi pis tes kids, qui vont au même dépanneur, qui vont voir les mêmes shows pis qui restent pognés dans le même trafic que toi. Boulevard 102.1 Québec, c'est chez nous.
Boulevard 102.1.
Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une excellente soirée, puisqu'elle débute avec Joël Monzé, docteur en neurosciences. Salut Joël!
Salut!
Joël qui a fait le grand chemin, est parti de chez lui dans les montagnes, a descendu vers Sept-Îles et par la suite revient sur ses pas, passe vers Québec et retourne vers ses fameuses Laurentides. Tu fais beaucoup de routes!
Oui, mais j'aime ça.
Oui.
C'est tellement beau, le Québec.
Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ta voiture? T'écoutes-tu de la musique? T'écoutes de la radio? Ou bien t'éteins tout puis tu fais juste écouter le silence?
Les deux. Ça m'arrive souvent. Tu sais, je reviens d'Alberta. J'étais en Alberta cet été, puis j'ai fait des centaines de kilomètres sans avoir aucun son ni quoi que ce soit. Je me mets dans un état méditatif. Je respire. Ça fait ça. Je prends soin de ma santé mentale comme ça.
Mais je pense que c'est les premières minutes qui sont les plus difficiles, parce que quand ça fait 10, 15, 20 minutes que tu es dans le silence le plus total, des fois, tu vois des places dans ta tête où tu n'aurais pas été si tu avais écouté la radio talk ou encore de la radio musicale. Fais du bien une fois de temps en temps.
Oui, puis la radio, éventuellement, ou la musique, je vais la mettre si à un moment donné je commence à fatiguer, que j'ai besoin d'avoir un peu de rythme. Speed ou de rythme pour pouvoir continuer et rester attentif sur la route, mais le reste du temps, j'aime beaucoup juste me contenter de respirer, en fait.
Exact. Ma collègue m'a écrit ce matin, une collègue que tu connais, Pascal Cévé, qui est en Slovénie maintenant. Mm-hmm. Fait son grand voyage là, à travers le monde en solo comme une grande fille, puis ça semble bien aller son voyage, m'envoie des belles photos. T'as vu les photos toi aussi?
Oui, tout à fait.
C'est de toute beauté. C'est le fun, cette liberté-là qu'on se donne quand on est jeune. Nos parents ne se sont pas donné nécessairement cette liberté-là quand ils étaient jeunes. Ils commençaient leur famille plus tôt, des plus grosses familles aussi. Ils ne pouvaient pas voyager pendant 2 semaines seuls.
Oui, puis je pense que justement, on se le permet beaucoup plus. Peut-être qu'on se permet aussi beaucoup plus de choisir le conjoint ou la conjointe avec laquelle on va faire des bébés.
Ouais.
Donc, ça veut dire que ça lui donne une marge de manœuvre. C'est certain que ça sort un peu des sentiers battus par rapport aux générations précédentes, mais c'est en même temps, c'est ce que notre société nous permet de faire aujourd'hui. Donc, profitons-en.
En même temps, le cerveau, ça lui permet de décrocher puis de voir autre chose aussi. Tu sais, j'envie des fois les gens qui sont sur d'autres continents où ça va peut-être un peu moins vite. Bon, ils ont d'autres problèmes, là, mais tu sais, on sent chez certains Africains, quand ils arrivent ici au Québec, ils travaillent autour de nous, puis pour avoir jasé avec quelques-uns, ils nous disent tout le temps « Mais vous êtes donc bien stressés comparativement à nous. » Puis ces gens-là auraient toutes les raisons du monde d'être stressés dans leur pays. Bon, les guerres, il y en a parfois. Il y a de l'instabilité politique aussi et tout ça. Ils arrivent ici puis sont encore moins stressés que nous.
Oui, mais c'est une des choses qui est le plus étonnant, dans le sens que quand je suis arrivé au Québec il y a une trentaine d'années, je venais de l'Europe qui était déjà très, très, très stressée à l'époque. Ouais. Puis là, j'avais vraiment l'impression, waouh, tu sais, on respire, ça fait du bien, les gens sont accueillants, les gens sont toujours heureux de pouvoir parler de leur coin de pays, sont heureux de savoir d'où on vient éventuellement. Ouais. Et en l'espace de 30 ans, le Québec est devenu aussi stressé que l'Europe ne l'était il y a une trentaine d'années. Et c'est beaucoup dû à la complexité et aux absurdités, aux contradictions dans lesquelles on vit. Et le problème par rapport à des endroits où peut-être c'est un peu plus dangereux de vivre, tu parlais tantôt de certaines régions d'Afrique, je pense entre autres à des régions où il y a des groupes terroristes comme Boko Haram et autres, c'est que le danger est réel, le danger il est concret. On ne sait pas nécessairement quand la Jeep avec les malades vont arriver, mais ça reste qu'elle est concrète. Tandis que nous, on est face à quelque chose qui est comme vaporeux. C'est comme du brouillard. Donc, et quand on est dans un espace comme celui-là, on ne sait pas nécessairement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui va être mauvais pour nous, bon pour nous, et ainsi de suite. Puis nos familles sont de plus en plus souvent recomposées. On écoute beaucoup la radio ou la télévision, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est souvent des mauvaises nouvelles qui vont être diffusés à travers les médias. Et donc, automatiquement, mais si on reste tout le temps avec cette impression qu'on vit dans un monde qui est dangereux, puis je ne suis pas en train de dire que le monde n'est pas dangereux, il y a assez de misère à plein d'endroits au Québec. Pensons à tout ce qui se passe notamment à Montréal au niveau de la violence ou des jeunes qu'on trouve dans des gangs de rue et autres, ou la violence gratuite qu'on peut retrouver, la violence domestique. Donc la violence, elle est réelle. Et qu'on en parle dans les médias, c'est une bonne chose. Mais on a parfois l'impression qu'il n'y a que ça. Et quand on a l'impression qu'il n'y a que ça, ça fait en sorte qu'on est tout le temps aux aguets et qu'on a peur de justement se retrouver dans une situation extrêmement dangereuse. Puisque Pascal vit probablement présentement en étant libre comme l'air pour faire son voyage, mais elle est probablement en train de se reconnecter à elle-même et de retrouver en fait un regard sur l'environnement qui est probablement beaucoup plus sain. Donc le voyage ou les vacances peuvent servir à ça justement pour pouvoir revenir à soi.
Peut-être être dans le moment présent aussi, puis tu sais, en jasant avec des Africains, puis en jasant avec des gens comme toi, ou d'autres personnes qui sont en psychologie et tout ça, eux se lèvent le matin en se disant, on est dans le ici et maintenant, je dois me trouver de la nourriture, je dois passer ma journée. Nous, on est tellement dans, OK, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer demain? La semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? On est constamment dans la planification, on écoute les nouvelles, bien entendu, on voit qu'au niveau de l'économie, c'est pas toujours évident. Ah, les taxes vont peut-être augmenter. Ah, les impôts, ça coûte toujours trop cher. On aurait peut-être avantage à prendre un peu exemple sur ces gens-là qui vivent au jour le jour. On dirait que c'est peut-être un peu moins stressant. C'est-tu parce qu'eux, quand ils naissent, ils se disent, OK, je pourrais pas atteindre de grands sommets là, avec la vie que j'ai puis où est-ce que j'habite, donc je vais pas à me concentrer là-dessus. Je vais me concentrer plutôt à faire ma journée puis me nourrir.
Mais je ne sais pas s'ils naissent sans ambition, parce que je pense qu'ils ont les leurs en fonction de leur culture en tant que telle, mais une des choses qui explique les migrations pour l'instant qui nous viennent notamment d'Amérique latine, c'est que les gens voient notre niveau de vie à travers Internet et rêvent de pouvoir vivre comme nous vivons. Un peu comme quand on était adolescent, qu'on voyait Dallas et Dynasty, qu'on s'imaginait que le rêve américain passait nécessairement en devenant J.R. ou Bobby Ewing, d'accord? Et de fantasmer sur ce côté-là. Et souvent, ce qui nous amène, en fait, à ne pas être bien, c'est de ne pas profiter de ce que l'on a dans le moment présent. C'est-à-dire que si on peut arriver à voir à quel point, malgré les défis qu'on peut avoir, la vie est quand même généreuse avec nous, parce qu'on a des amis autour de nous, parce qu'on a, je l'espère, un travail qui nous convient, parce qu'on a peut-être le partenaire ou la partenaire de vie avec lequel on peut vraiment construire quelque chose de fun et peut-être des enfants qui participent en fait à l'œuvre du plaisir. Et donc de pouvoir arriver à planifier des choses, c'est pas nécessairement ça qui pose problème, parce que aussi bien ton métier que mon métier, on serait pas capable de le faire si on ne planifiait pas l'ensemble de choses. Par contre, être capable de pouvoir avoir un regard contemplatif sur ce qu'on a et toutes les belles choses qui nous arrivent dans la vie, les belles rencontres qu'on peut faire, les beaux coins de pays qu'on peut voir, le plaisir que tu as avec ta blonde et les enfants, le plaisir que j'ai avec ma blonde et les enfants, ça fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, oui, on va être dans une certaine forme de planification, on peut même anticiper, il y a des choses qui peuvent être compliquées, mais on peut rester dans le présent parce qu'on est dans un espace un peu contemplatif à chaque moment, en remerciant la vie de ce qu'elle nous a donné.
Ouais, mais faut-tu le perdre pour se rendre compte de ce qu'on a? Souvent, à plus petite échelle, tu sais, quand je faisais mes voyages de moto, quand j'étais célibataire et sans enfant, je faisais mes voyages de moto, puis je partais pendant des semaines et des semaines vers les États-Unis, puis après ça, je revenais, puis je regardais à quel point Québec était magnifique. Alors que je suis né ici, mais je me rendais pas compte à chaque jour que Québec était magnifique, mais comme je l'ai perdu pendant quelques semaines, puis après ça, je suis revenu, je voyais les choses comme autrement parce que j'avais vu ce qui se passait ailleurs.
Ou peut-être que le fait d'avoir eu ton regard sur plein de paysages que tu ne connaissais pas aux États-Unis, quand tu es revenu au Québec, tu as gardé ce regard contemplatif et te rendre compte qu'on a la chance de vivre dans un bel endroit.
Parce que quand on parlait des migrants la semaine passée, bon, le Québec a eu sa part de migrants, puis on a de la misère à les loger, on a de la misère à se dire, OK, là, on en reçoit peut-être un peu trop, il faudrait en renvoyer peut-être vers l'Ontario et tout ça. Bon, je pense pas que c'était le meilleur commentaire de notre premier ministre là, en disant qu'il faut les déporter. Je pense que s'il avait une chance de se reprendre sur le mot, il le ferait certainement. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, Yann, c'est normal qu'on choisisse le Québec. Vous avez un panier de service qui est incroyable pour un migrant. Là. On part de chez nous, on n'a absolument rien, on arrive ici au Québec, on nous prend en charge, on nous loge, on garde nos enfants, puis on essaye le plus possible de nous trouver de l'emploi. On est gâtés au Québec, puis on s'en rend pas compte. Là. Mm-hmm. Mais eux, ils arrivent ici, ils regardent ce qui est offert dans le reste du Canada, puis ils disent... C'est au Québec qui a la meilleure offre pour nous, alors que nous autres, on regarde toujours vers l'Ouest canadien et on dit « Ah, la vie semble beaucoup plus belle dans l'Ouest canadien!
» Mais en fait, on a plus d'espace et il y a une certaine forme de plus de liberté. Je pense que, je passe beaucoup de temps en Alberta ces dernières, ouais. depuis quelques temps, l'État est moins envahissant. Que ce qu'il ne peut l'être ici. Donc, l'administration est un peu moins lourde que ce que l'on peut avoir ici. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut faire en sorte qu'on peut se sentir plus libre, un peu comme un cow-boy solitaire qui s'en va sur sa moto,
ben oui.
Sans femme et sans enfant, ou se dire que il y a une conséquence, il y a moins d'État, donc il y a moins de services.
Ouais.
Tu sais, puis parfois aussi, je trouve qu'on ne comprend pas toujours l'Ouest. Oui, c'est vrai que par exemple, Alberta, on va critiquer qu'ils vont prendre du pétrole et ainsi de suite, sauf qu'au niveau de transports en commun, peu polluants, ils sont en avance pas mal
sur
par
nous,
rapport
ouais.
au Québec.
Ouais.
Donc, il y a aussi d'autres choses. Mais si on revient avec le Québec, c'est vrai qu'on est une des nations les plus, protectrices. On a un filet social qui équivaut à ce qu'on a dans les pays scandinaves ou ce qu'on a en Belgique. Et oui, les gens qui ont la difficulté ou qui doivent démarrer, qui doivent mettre le pied à l'étrier ou qui passent un mauvais moment, le filet social québécois est un filet social qui est très, ouais. très avantageux. En même temps, on fait partie des 5 endroits dans le monde où il y a le plus de suicides. Parce que on
est tellement
mais non, c'est pas incompréhensible parce que on a tellement de services justement qui nous sont donnés, c'est
ouais.
que regarde, je sais quelque part, je dis parfois en rigolant, la droite aujourd'hui, il faut la définir d'un côté les gens qui se responsabilisent et la gauche, ce sont les victimes. Donc on va protéger le plus possible les victimes. Donc c'est à partir du moment où on entre dans un système où on s'identifie à une personne victime, où on va aller chercher les ressources nécessaires. Qui nous sont donnés. Puis il faut les donner, les personnes ont vraiment des besoins, d'accord? Mais l'identification au rôle de victime fait en sorte qu'à partir de ce moment-là, au moment où, malgré toute l'aide que l'État peut donner, que les OBNL peuvent donner, que les gens qu'on rencontre peuvent donner, quand il y a toujours pas de sens à notre vie, eh bien, pour certaines personnes, et espérons que ça n'arrive à le moins de personnes possible, c'est que la souffrance intérieure reste tellement imposante que malheureusement, certains vont passer à l'acte et mettre fin à leur jour. En fait, souvent, c'est parce qu'ils veulent arrêter de souffrir. C'est pas nécessairement qu'ils veulent arrêter de vivre. C'est que la vie dans laquelle ils sont plongés, ils voient pas la fin, ils voient pas le bout du tunnel, ils ont plus d'espoir et ils ont l'impression que s'ils étaient morts, ils arrêteraient de souffrir.
Tu as passé un peu de temps dans l'Ouest canadien. Est-ce que les enfants de l'Ouest canadien sont aussi stressés que les nôtres?
Non, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, justement, le rythme est beaucoup plus lent. On va revoir ça aussi en Acadie.
Okay.
Tu vois, là, en Acadie aussi, on se retrouve avec des personnes qui sont beaucoup moins stressées. Je crois que le Québec, j'aurais envie de dire, quand le Parti libéral est arrivé au pouvoir en 2003, en l'espace de deux ans et demi, ils ont doublé la dette du Québec. Et ça, c'est majeur. On pourrait imaginer qu'il y avait éventuellement une commande pour réduire le risque de repartir un jour vers un référendum, c'est qu'on devienne totalement dépendant du fédéral. Donc, c'est une vision politique, ce n'est pas de la conspiration, c'est tout simplement une stratégie politique pour faire en sorte qu'on ne parle plus de référendum. Je ne veux pas dire que c'est ça qui était dans la tête de M. Charest, mais c'est quand même ça qui s'est passé, c'est que la dette a doublé. Mais automatiquement, ça a mis en sorte qu'il y a une grosse pression. Comment cette dette-là a doublé? C'est qu'on a augmenté la taille de l'appareil politique, la taille de l'appareil administratif. Madame Forget a essayé de réduire la taille de l'État, elle s'y est cassée les doigts. Les dents, pardon, Monsieur Legault avait promis qu'il allait essayer de le faire aussi, puis je crois que dans l'intention de Madame Forget comme de Monsieur Legault, c'était de réduire la taille de l'État, mais malheureusement, dans les faits, c'est absolument pas ça qui est arrivé. Au contraire, il y a de plus en plus de fonctionnaires, de plus en plus de personnes qui ont peut-être leur raison d'être en tant que telles, mais automatiquement, ça fait en sorte que la pression au niveau des impôts, la pression administrative, le nombre de formulaires, le nombre d'étapes à pouvoir franchir pour pouvoir réaliser un projet, ne serait-ce que pour construire une maison. Si on regarde à Montréal, on parle parfois d'un an et demi avant de pouvoir avoir un permis de construire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas le temps d'attendre un an et demi avant de construire une maison ou un bloc appartement, tu sais, parce que le monde des affaires, il faut que ça aille vite. Donc tout le côté administratif, même si c'est une volonté d'améliorer les choses pour l'individu, individu fait en sorte que ça peut amener beaucoup de lourdeur, et cette lourdeur-là, ben, ça écrase les gens, puis ça fait en sorte qu'on est de plus en plus stressé.
Et ça se répercute probablement sur nos enfants.
Oui, parce que si les adultes ne vont pas bien, les enfants ne peuvent pas bien aller. Dans le sens que le stress et l'anxiété, c'est tout à fait normal. Par exemple, j'allais à cette île, je savais qu'il y avait le risque d'avoir une première neige, ne serait-ce qu'en passant du côté de Rivière-Saint-François. D'ailleurs, quand je suis passé à l'allée, il y avait déjà un petit pied de neige qui était sur le bord de la route. Donc, c'est certain que l'anticipation, anxiété, que quelque chose de grave pourrait se passer, en l'occurrence un accident, mais fait en sorte que mon réflexe, c'est de mettre mes pneus d'hiver avant de partir, de faire un voyage de 2000 km. D'accord, parce qu'il y a 2000 km entre chez moi, en fait 1000 entre chez moi et cette île, donc c'était au moins 2000 km pour faire l'aller-retour. Mais si je reviens là-dedans, c'est que le stress m'amène à être vigilant. D'accord, si je suis vigilant, ben, il y a moins de risques d'avoir des accidents. Je suis plus attentif à ce que je fais. Donc le stress et l'anxiété sont normaux. Un enfant, quand il est à l'école, s'il n'y a pas de stress, il ne peut pas être concentré. S'il n'y a pas de stress, il n'est pas capable de pouvoir mémoriser ce que l'enseignante va lui enseigner. Donc c'est quelque chose de nécessaire. Le problème, c'est quand le stress devient trop chronique, qu'il est constant, continu et imperceptible, dans le sens que, un peu comme je parlais tantôt, on est plongé dans un monde de brouillard où l'ennemi n'est pas définissable. Ce qu'on a vécu pendant la pandémie, pour moi, un virus, c'est concret, parce que j'ai fait mon doctorat dans une fac de médecine, je suis entouré de pas mal de gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Un virus, c'est concret, mais pour la majorité des gens, le virus, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop si le voisin ou la voisine peuvent l'avoir.
Ouais, la plupart des cas, le virus, il peut être très banal.
Oui.
Mais on sait que maintenant, il peut être extrêmement dangereux. Là. Moi, quand Lucien Bouchard a eu la bactérie mangeuse de chair, je me suis dit, oh, tabarou! Qu'est-ce qui vient de se passer là?
Tout à fait.
Ça en était tout un, ça, un problème. Là.
Mm-hmm.
Puis bon, la pandémie, comme tu l'as dit, on essayait de bâtir un avion en plein vol, avec les erreurs qu'on a fait en descendant.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui fait en sorte que quand on a des stress chroniques comme ça, si les adultes ne vont pas bien, ils n'arrivent pas en fait à rassurer et à consolider le développement du jeune, et c'est là que le stress et l'anxiété deviennent toxiques. Et je dis c'est beaucoup de professionnels de la santé dans le monde de la médecine intégrative, en psychologie, donc les gens qui s'intéressent aux aspects psychologiques, mais aussi aux aspects corporels qui peuvent amener des difficultés psychologiques, d'accord, ou l'inverse, des difficultés psychologiques qui peuvent amener des difficultés corporelles, eh bien, on sait que les traumas complexes, donc quand on grandit dans des environnements extrêmement anxiogènes, donc on a du stress qui est chronique et mal encadré, mais c'est probablement le premier vecteur des maladies dégénératives qu'on a quand on est adulte. D'où l'importance d'étudier de plus en plus ces phénomènes-là et de faire attention à nos enfants. Souvent pendant la pandémie, j'entendais des gens qui disaient « Ah, l'enfant, c'est pas grave, ça s'adapte. » Oui, mais à quel prix ça s'adapte? C'est quand vous avez tous déjà entendu parler des troubles de la personnalité, mais un trouble de la personnalité, ce sont des adultes à qui on a demandé de s'adapter à un âge où ils n'étaient pas encore prêts de s'adapter à ce à quoi on leur demandait de s'adapter. Donc, ils ont cristallisé des comportements normaux à certains moments de l'enfance ou de l'adolescence, mais rendu adulte, où on devrait agir avec d'autres stratégies pour gérer le stress, l'anxiété ou les défis de la vie, mais on reproduit des comportements d'enfant ou d'adolescent, et c'est ça qui définit en grosso modo en fait un trouble de la personnalité. Donc, s'il y a autant de gens qui ont des enjeux narcissiques, s'il y a autant de gens qui ont des enjeux histrioniques, l'histrionie, c'est le désir de plaire et d'être vu et admiré par tout le monde, mais je veux dire, le narcissisme plus l'histrionie, on est beaucoup sur nos réseaux sociaux à vouloir justement démontrer qu'on est des influenceurs.
Ouais.
Et donc, ça démontre, mais ce sont des enjeux qui sont normaux quand on a 300-400 ans, de vouloir plaire à notre environnement. Ça revient normalement à l'adolescence, où l'adolescent essaie de trouver sa place dans la société. Mais normalement, rendu à l'âge adulte, on doit être capable de faire la part des choses. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui vont nous détester, il y a des gens qui seront neutres. Ben, c'est correct. On ne va pas nécessairement essayer de vouloir démontrer qu'on n'est pas la personne qu'on est. L'important, c'est d'être la personne que l'on est. Sinon, c'est là qu'on tombe dans des traits ou dans un fonctionnement ou dans un trouble de la personnalité.
Les personnalités histrioniques ou encore les personnalités narcissiques, est-ce que tu en croises souvent sur ton chemin dans la société? Parce que moi, je vois passer ça honnêtement sur les réseaux sociaux. Là, puis à chaque fois que j'entends parler d'une personnalité narcissique, c'est tout le temps une jeune femme qui se plaint de son ex-conjoint. c'est tout le temps l'ex qui devient la personnalité narcissique. Est-ce que c'est si répandu que ça, Joël?
Mais je pense que c'est répandu, mais qu'il faut faire attention à ce qu'on retrouve sur Internet.
Ouais.
C'est plus complexe que ça, dans le sens que quand tu fais une émission ou quand moi je réponds à une entrevue, j'ai envie d'être pertinent, tu as envie d'être bon, tu as envie que les auditeurs te disent « Ah, waouh, merci Yannick, c'était vraiment une très belle émission. » Moi, j'ai envie que les gens se sentent touchés par ce que je peux raconter éventuellement. Ce qui fait que c'est une réaction narcissique, mais elle est saine, dans le sens qu'on ne va pas aller se taper la tête au mur si malheureusement on s'est mis à bégayer. On sait qu'on pourrait bégayer, on sait qu'on pourrait se tromper de mot et on va être capable de le gérer. L'aspect problématique, c'est quand on veut uniquement être parfait et qu'on va commencer à essayer de nuire à quelqu'un d'autre pour pouvoir maintenir notre image de perfection. Okay. Et là, par exemple, on a des institutions qui sont très narcissiques. C'est très difficile de critiquer une institution parce que l'image institutionnelle est parfois plus importante que les personnes qui travaillent à l'intérieur de cette institution-là ou que les personnes qui reçoivent des services de la part de cette institution-là. Donc là, on voit que ces aspects-là doivent être tenus en compte. Alors oui, il y a des individus qui vont fonctionner comme ça, puis il y a des individus où ça peut aller tellement loin dans le désir narcissique. Prenons ses deux enfants, d'accord? Mais si on analyse le comportement de monsieur, c'est un trouble de personnalité narcissique, pervers, en tout cas c'est une hypothèse, on s'entend, mais ça correspond en fait à ces éléments-là et c'est ce qui peut conduire justement certaines personnes à agir d'une manière complètement détestable.
Puis ces gens-là qui sont comme ça, est-ce qu'ils en sont conscients qu'ils sont comme ça? Puis là, on est un peu dans la psychologie, mais tu sais, on parlait avec un ex-enquêteur de la Sûreté du Québec, c'est hier ou avant-hier. Et ce qu'il nous disait, c'est que des psychopathes, il n'en avait rencontré qu'un seul dans sa vie. Il nous l'a même nommé, puisque ça a été fortement médiatisé. C'était Gérald Galland, un des tueurs à gages les plus prolifiques de l'histoire du Canada. Il a tué 28 personnes. Mm-hmm. Puis lui, il a eu Gérald Galland sous sa garde pendant quelques jours. Puis il dit, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était incapable d'avoir des émotions.
Non, incapable. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, malheureusement, et ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne sont pas adaptés à la société. Dans le sens que si moi, mon chirurgien n'a aucune émotion envers moi, s'il doit m'opérer, je m'en fous. La seule chose que je lui demande, c'est de bien m'opérer. Ouais. Et si son côté narcissique fait en sorte qu'il veut devenir le meilleur chirurgien du monde entier, ouais, et sa chirurgie ça est parfaite, ça m'avantage.
Je comprends.
D'accord? Donc, ça dépend toujours de la capacité de la personne d'être adaptée, okay, dans l'environnement dans lequel il est.
Mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont comme ça?
Mais le problème, c'est que avant d'en avoir un trouble de personnalité, c'est que tu as d'abord des traits, puis tu as un fonctionnement de cet, ouais, ordre-là. Et plus en fait tu vas loin dans cette manière de fonctionner en société, moins tu as accès aux ressources qui te permettent de prendre du recul, d'analyser la situation, de voir l'impact que ça a sur les autres et de te réajuster. Parce que au contraire, tu sais, dans la définition même de la psychopathie perverse, c'est qu'il y a du plaisir à faire souffrir l'autre.
Ouais.
Donc à ce moment-là, il se rend conscient de l'impact que ça a, mais comme il n'y a pas de résonance émotionnelle, ben, ils n'ont pas de culpabilité parce qu'ils ont fait souffrir quelqu'un. Et je crois que si on a autant de films, surtout américains, où on nous montre des tueurs en série, où on nous montre un certain nombre de personnages abjects dans la société, ben, c'est que c'est plus répandu qu'on le croirait. Et il y en a qui sont dans des métiers où ça leur permet de pouvoir agir comme ça, puis ça ne se voit pas trop parce qu'on a l'impression que la cause qu'ils défendent, en fait, justifie ou légitimise, en fait, un comportement qui, pour moi, sur le plan social, est problématique.
Y a-t-il des métiers qui favorisent plus ces gens-là? Quand tu parles de personnalités histrioniques, les personnalités narcissiques, les psychopathes, bon, j'avais pensé aux avocats, là, mais là, ça, c'est peut-être un préjugé. Y a-t-il des métiers qui intéressent beaucoup ces gens-là?
Mais peut-être que la manière...
Animateur de radio, c'est pas là-dedans. Non, non.
Mais c'est pas, ça dépend. Je pense que tu as de tout dans la société. Ouais. Quelque part, tu peux avoir des animateurs qui sont extrêmement anxieux et d'autres qui vont réagir avec beaucoup de narcissisme.
Ok.
C'est peut avoir. Tu sais, c'est toujours une question d'humilité. Si par exemple moi je me trompe, j'ai aucun problème de dire excuse-moi Yannick, je me suis trompé dans l'information que je t'ai donnée. où je vais me reprendre parce que je pense que la manière dont j'ai nommé les choses était inadéquate. Et à partir de ce moment-là, ben, ça fait en sorte qu'il y a moins de risques avec une attitude comme ça d'être en fait narcissique. Mais tu en as d'autres qui croient vraiment qu'ils sont le nombril du monde. Donc là, on est dans une dynamique où on peut craindre en fait une certaine forme de minimalement un fonctionnement narcissique. Ce n'est pas nécessairement toujours un trouble de personnalité en tant que tel. Et c'est certain que si on regarde sur Internet, ben, c'est facile d'avoir l'impression, parce que souvent les critères qu'on va utiliser, c'est la même chose avec le TDAH, c'est la même chose avec la dépression et la plupart des vignettes diagnostiques, c'est qu'on a parfois tellement simplifié la manière de le décrire qu'on va souvent reconnaître notre voisin ou notre voisine être atteint de telle chose. Et moi, j'ai envie de dire, si on reconnaît notre voisin ou notre voisine, ça se pourrait que notre voisin ou notre voisine ne soit qu'un miroir de nous. Mmh. Parce qu'on va peut-être aussi regarder beaucoup de choses où on va être attiré par des choses qui nous ressemblent. Et c'est d'ailleurs dans le métier de psychologue ou de psychothérapeute, il faut faire très attention de ne pas projeter nos émotions ou de ne pas projeter notre manière de voir la vie sur la personne qu'on va accompagner.
OK. Très intéressant. Joël, tu restes avec nous. On va faire une très courte pause parce qu'après la pause, je veux te parler des ordres professionnels. J'ai trouvé un article sur toi. En fait, on t'a interviewé là, par Libre Média sur les ordres professionnels, puis je veux en savoir plus. Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Dr. Joël Monzé, docteur en neurosciences. Il est avec nous encore pour une bonne trentaine de minutes. Restez là, on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneries qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis 18h.
Boulevard 101.
Le 1er novembre, le Patro Charlebourg vous invite à sa 47e édition du cocktail Bénéfice du Patro. Faites la différence! Au programme, une offre alimentaire généreuse, boissons à volonté pour trinquer et célébrer ensemble, une animation musicale festive et plus! Votre présence est essentielle au maintien des programmes de sport, de loisirs, d'entraide pour la communauté. Inscrivez le 1er novembre à votre calendrier et procurez-vous vos billets dès maintenant. Pour plus de détails et pour réserver vos billets, visitez le patrocharlebourg.net.
C'est la grande vente chez la Tuilerie. Du 4 au 28 octobre, on paie les taxes sur toutes les tuiles, bois franc et vinyle. Trouvez votre design de rêve à la Tuilerie Québec ou sur latuilerie.com. Mercedes-Benz de Québec vous offre le EQB 2024 à partir de 579 $ plus taxes. Taux fidélité 0 % ou 1,99 % d'intérêt. Zéro comptant, transport et préparation inclus. Admissible aux subventions gouvernementale. À partir de 579 $ plus taxes, le Mercedes EQB 2024 est un incontournable dans le segment des VUS électriques. Livraison rapide. Mercedes-Benz de Québec, rue Bouvier, l'étoile de Québec.
Monopoly joué deux fois et de retour chez McDo.
C'est mon moment préféré de l'année.
D'abord, détaché sur l'emballage.
Ça, c'est moi qui gagne un voyage à Universal Studios.
Et ensuite, détaché encore dans l'appli.
Ça, c'est moi dans mon nouveau Chevrolet Equinox RS.
Il y a des millions de prix à gagner, incluant des prix en argent chaque minute dans l'appli.
L'argent, ça fait pas vraiment de bruit, mais c'est super, par exemple.
Ressentez la victoire chez McDo en jouant au Monopoly jouer deux fois. Jusqu'à épuisement des stocks. Une chance sur cinq de gagner au début du jeu. Les chances de gagner à jouer deux fois dépendent du moment où le code est saisi. Les chances de gagner un prix par tirage au sort dépendent du nombre de participations reçues pour chaque tirage. Voir le règlement dans l'appli.
À la recherche d'une idée originale, au Mégaparc, nos forfaits corporatifs transformeront vos événements en expériences inoubliables. Partez de Noël, team building ou autre, offrez-vous des moments de plaisir partagés. Le Mégaparc, votre endroit pour un événement réussi. Réservé dès maintenant.
Vous le savez, je trippe pas mal sur les meubles de l'usine. C'est beau, confortable et ça change ton décor. Attendez, on me dit que certains de leurs meubles populaires sont en stock et disponibles maintenant. Faites vite, ça part comme des petits pains chauds. Qu'est-ce que vous attendez? Courez chez l'usine.
Travaillez efficacement sur votre terrain avec un tracteur Massey Ferguson de chez SA Service Agricole. Creusez, chargez, tirez et plus. Garantie 10 ans à partir de $59 par semaine à l'achat. Disponible maintenant pour les meilleurs tracteurs. SA Service Agricole.ca.
Vous désirez apprendre à faire vos propres transactions sur les marchés boursiers? Assistez à la séance d'information gratuite avec Gaétan Royer le 28 octobre, 19h. Réservez votre place au cobaltinvestissement.com. Un webinaire à ne pas manquer, lundi 19h, cobaltinvestissement.com.
Qu'est-ce qui est mieux qu'un Outlander PHEV pour passer à travers la neige, la glace et la gadoue? un PHEV 9 de Paquette Mitsubishi avec 1000 $ en crédit pour vos pneus d'hiver. En plus, dernière chance d'ajouter la garantie prolongée sans frais sur le PHEV 2024. 10 ans, 160 000 km, ça vaut jusqu'à 3 750 $ plus le rabais fidélité de 1000 $ plus 10 000 $ en subvention des gouvernements. Ça fait toute une bordée d'économies, ça. Détails chez Paquette Mitsubishi à Lévis.
Alors que le gouvernement sabre dans la francisation offerte dans les centres d'éducation des adultes, des profs, partout au Québec, perdent leur emploi et des personnes immigrantes n'ont plus accès à des cours de français. Cette décision est irresponsable et incohérente, surtout de la part d'un gouvernement qui prétend valoriser la profession enseignante et placer en priorité l'apprentissage du français. Monsieur Legault, les beaux discours ne suffisent pas.
Un message de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la CSQ.
Le week-end du 25 au 27 octobre, c'est le plus grand rassemblement académique et motivationnel en immobilier au Québec. À l'Hôtel Plaza, avec la faculté des mordus d'immobilier, réseautage, panel, conférences et bien plus. Ouvrez-vous à un monde d'opportunités. Réservez votre billet au mordusdimmobilier.com.
Les journées raccourcissent et le temps des pneus, c'est maintenant chez Kennedy Pneus et Mécaniques. Pensez à prendre votre rendez-vous. Obtenez le financement jusqu'à 3 mois sans frais ni intérêt sur tout achat de pneus et réparations mécaniques. Kennedy Pneus et Mécaniques.
Faites-nous confiance et roulez en toute sécurité.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercalo.fm.
Obtenez une inspection par caméra du drain de fondation d'une valeur de 169 $ pour seulement 101 $ chez Drain Québec.
À juger. Prochaine offre.
Procurez-vous une thermopompe Goodman 12 000 BTU d'une valeur de 4 200 à 2 100 $ chez Enviro Confort.
À juger à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Yuzu Sushi présente les Pop-Up Sushi. 4 sushis totalement éclatés avec bonbons pétillants, popcorn, carré de Rice Krispies ou tofu saté. Une expérience surprenante, osez les essayer pour un temps limité. Yuzu, c'est toujours bon.
Lévis Subaru a en stock plusieurs Solterra 2024 électriques à traction intégrale. Le VUS électrique parfait pour nos hivers. Profitez maintenant d'un rabais de 17 000 $ incluant le rabais gouvernemental pour une durée limitée. Détail en concession. Choisissez le vôtre.
Lévisubaru.com. T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Docteur Joël Monzé est avec nous, docteur en neurosciences. On parle d'un article que j'ai vu passer sur lui dans Libre Média, qui est un journal que j'aime bien, qui parle de sujets qu'on n'entend pas nécessairement parler dans les journaux peut-être un peu plus généralistes. Allez voir ça sur Libre Média, c'est franchement intéressant. Puis en plus, ben un de mes collaborateurs est un des boss chez Libre Média, c'est Jérôme Blanchet, mm-hmm. Gravel, qui vient faire son tour à chaque semaine dans Marceau le midi. On parlait des ordres professionnels. Est-ce qu'on se pose des questions à savoir, est-ce que les syndics manquent-ils à leur devoir? C'est quoi un ordre professionnel? Puis les syndics, est-ce qu'ils manquent effectivement à leur devoir, Joël?
Oh, est-ce que les syndics manquent à leur devoir? Beaucoup trop manquent à leur devoir, mais on va expliquer ça après. Je vais juste expliquer c'est quoi un ordre professionnel. En fait, un ordre professionnel, c'est une institution qui a été créée il y a une cinquantaine d'années dans l'objectif de protéger le public quand un professionnel peut avoir de manière directe ou indirecte une position d'autorité. Le médecin, c'est facile à comprendre. Quand vous êtes malade, il a une position d'autorité. C'est lui qui va poser un diagnostic, qui va proposer des médicaments ou un plan de traitement et ainsi de suite. Donc, on veut s'assurer que le médecin fasse son travail dans le respect de l'individu que vous êtes, mais aussi dans par rapport à l'ensemble de la société.
Okay. Et là, on fait en sorte que le titre est protégé aussi?
Ça fait en sorte également que le titre est protégé et ça fait partie aussi potentiellement des enjeux corporatistes qui découlent des ordres professionnels, mais on va y revenir après.
Okay.
Donc, dans l'ordre professionnel, il y a 3 niveaux. Tu as le président ou la présidente, d'accord, et éventuellement autour de la présidence, il y a le secrétaire général et puis toute son équipe. Tu as le conseil d'administration, qui sont des personnes qui sont élues à travers leurs membres dans chacune des régions. D'accord? Et tu as le syndic. Ça s'organise de la même manière que le gouvernement. On a d'un côté le gouvernement, par exemple, le gouvernement Legault, comme un président ou une présidente d'un ordre professionnel. On a l'Assemblée nationale, qui est quand même techniquement supérieure, en fait, au gouvernement. Normalement, c'est l'Assemblée nationale qui est le premier niveau de pouvoir. Et on a le troisième niveau de pouvoir, c'est le judiciaire, dans lequel fait partie la police et toute la structure des juges, des tribunaux, et ainsi de suite, qui est donc le troisième pouvoir. Normalement, les pouvoirs sont séparés. Ça va être la même chose dans un ordre professionnel. Les pouvoirs sont relativement séparés. J'ai bien dit relativement. Quand on était dans la crise pandémique, Mme Guilbeault disait souvent « Nous espérons que les policiers pourront user de discernement quand il s'agit d'intervenir auprès d'une personne qui vit dans la rue. » Elle ne peut pas dire à un policier de ne pas arrêter une personne qui vit dans la rue quand il y a un couvre-feu. Donc, elle ne peut faire appel que appel à son discernement. Parce que normalement, les trois niveaux de pouvoir doivent être relativement séparés pour garantir une démocratie.
Mais en t'entendant, je vois qu'il y a quelques exceptions au Québec. Là. Le chef de la Sûreté du Québec est souvent élu par l'Assemblée nationale. C'était le cas il y a de ça quelques années. Là. Et tu sais, effectivement, les policiers n'ont pas le droit de dire, mais d'un autre côté, on sait que c'est pas mal eux autres qui mènent la danse. Là.
Oui, mais en même temps, tu sais, je suis pas dérangé que le chef de la Sûreté du Québec soit élu au même titre qu'on a la vérificatrice générale ou qu'on a le commissaire au lobbyisme.
Écoute, juste au Québec, là, on avait Robert Lafrenière qui était le boss de l'UPAC. Mm-hmm. Son gendre, c'était le chef de la Sûreté du Québec. Et la femme de ce chef de la Sûreté du Québec, c'était la fille du boss de l'UPAC, Lafrenière. Où est-ce que ça peut arriver dans le monde, si ce n'est qu'ici, là, trois membres d'une même famille dans des postes stratégiques? Donc oui, il y a de la politique au travers, même si on nous dit « Ah, la politique doit rester à l'extérieur de ça ».
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la nomination peut avoir un impact politique et elle peut être politique, mais normalement, l'Assemblée nationale est quand même tenue de s'assurer que la personne qui va être nommée a les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Puis j'imagine que dans une situation comme celle-là, pour éviter qu'on accuse, en fait, ces gens de népotisme, ils ont dû, en fait, probablement bien vérifier ou s'assurer que ces personnes avaient les compétences pour pouvoir faire le tout. Mais ça reste que, oui, il y a un certain flou entre chacun des niveaux. Par contre, le travail de l'UPAC, le gouvernement n'a pas le droit de déterminer ben, vous allez faire ceci ou vous allez faire cela. Contrairement, par exemple, à l'INES, donc l'Institut national de l'excellence en santé et en services sociaux, ou l'INSPQ, l'Institut national de la recherche en santé publique, où là, ce sont deux organismes qui sont des organismes de l'État et qui ne fonctionnent qu'avec des mandats bien spécifiques, d'accord, qui sont dictés par le gouvernement. Donc, normalement, la police, elle est censée quand même, ou l'UPAC, ou la Sûreté du Québec sont censés en fait travailler relativement indépendamment, ce qui permet par exemple à un policier d'enquêter sur un député qui pourrait éventuellement avoir fait une malversation.
Comme on l'a vu dans le cas de Nathalie Normandeau. Mm-hmm. L'UPAC avait procédé à l'arrestation de Nathalie Normandeau. Puis d'ailleurs, il était le chef de l'UPAC de l'époque était à re-signer son entente pour les prochaines années, pour son prochain mandat. Donc ça s'est déjà fait.
Mm-hmm.
Okay.
Oui, puis normalement, ça garantit, tu sais, ce genre de régulation croisée, normalement, garantit la démocratie. Ça fait en sorte qu'un premier ministre ou un ministre ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais la même chose, le policier, lui aussi, doit répondre de ses actes. Il va y avoir un mode de régulation qui existe pour faire en sorte que le policier, s'il transgresse les règles élémentaires ou le code de déontologie, la police des polices, les bœufs carottes, comme disent les Français, vont pouvoir enquêter sur le travail. Mais ça, on n'a pas ça dans les ordres professionnels. Et c'est ça qui doit changer le plus rapidement possible parce que ça peut amener en fait à des comportements problématiques, notamment des comportements de corporatisme. On a vu avec le projet de loi 67 où il y a eu le partage d'actes anciennement réservés pour les médecins qui ont été donnés, qui pourraient être donnés aux pharmaciens et aux infirmières, voire éventuellement certains actes au niveau diagnostic, au niveau des psychologues. Mais quand les ordres viennent à la commission parlementaire, ils ont un comportement qui est corporatiste, qui ne pense pas pas, en fait, à l'individu, qui ne pensent pas aux citoyens, et ils n'ont pas de compte à rendre à personne. C'est ça qui est dramatique et qu'il va falloir changer. J'espère que ça va changer dans la chose prochaine. Mais pire encore, ce sont les syndics. Les syndics, c'est tantôt quand je te nommais que le policier qui fait mal son travail ou qui tourne les coins ronds peut se faire enquêter et pourrait être sanctionné. Mmh. Ça n'existe pas au niveau des syndics des ordres professionnels. Alors, il faut faire attention, un syndic, ce n'est pas un syndicat. D'accord? Le mot syndic pourrait peut-être d'ailleurs être changé parce que parfois on le confond avec syndicat, avec syndic de faillite. D'accord? Donc c'est un mot qui revient souvent. Le syndic, en fait, c'est comme on veut, je vais prendre une comparaison, c'est comme le chef de police à l'intérieur du bureau d'enquête quand une personne, un professionnel, est suspecté d'avoir transgressé le code de déontologie. Et ces personnes-là ne sont jamais enquêtées, se sont permis de se prendre un pouvoir terrible à l'intérieur du système québécois. Tu sais que, techniquement, si un policier veut rentrer dans ma maison, il a besoin d'avoir un mandat de perquisition. Ça fait 2 ans que j'ai abandonné mon permis. D'accord? Eh bien, le syndic pourrait rentrer dans ma maison ou envoyer du monde dans ma maison pour prendre tous mes ordinateurs, tous mes dossiers, pour s'assurer que je ne fasse plus de psychothérapie. Et là, je ne peux rien faire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une transgression élémentaire. Il y a des comportements qui sont abusifs à l'intérieur des enquêtes. Et si le professionnel demande une enquête à l'ordre professionnel en disant ben, « il y a telle chose qui se sont passées pendant le processus d'enquête », eh bien, il n'y a personne qui peut rien faire. Ils ont une immunité totale.
Je comprends. Pendant la pandémie, bon, on l'a dit tout à l'heure, on était en train de bâtir un avion en plein vol, puis on essayait de faire nos affaires en vase clos, en regardant un peu ce qui se passe là, ailleurs, mettons, en France et tout ça, puis on mettait nos propres trucs en place. Il y a des gens qui sont sortis dans les médias, dont un gars que j'ai reçu dans mon ancienne vie radio, Patrick Provost, que j'aime bien, qui, lui, critiquait quelques décisions du gouvernement pendant la pandémie en disant... Telle affaire, je le comprends. Par contre, moi, j'hésiterais à faire telle affaire. J'ai toujours pensé, moi, que les scientifiques devaient constamment douter de l'ordre établi et constamment essayer d'améliorer la science. Et dans son cas, à lui, il a passé dans le tordeur Patrick Provost, puis pas à peu près. Ça a été la même affaire pour un homme que j'aime beaucoup, Marc Lacroix, qui donnait aussi son opinion dans les médias concernant la pandémie. Il a critiqué l'OMS... l'Organisation mondiale de la santé, quelques fois. Et ça, ça n'a pas été bien reçu par le Collège des médecins. M. Lacroix a encore des problèmes là-dedans, d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on les passe dans le tordeur comme ça quand ces gens-là ne sont pas nécessairement d'accord avec leur père?
Mais en fait, je pense qu'il y a des intérêts singuliers. Si je peux regarder par rapport à ce que Patrick a fait, oui, un chercheur universitaire doit se poser des questions. Oui, un chercheur universitaire doit remettre en question l'ordre établi, entre guillemets, la théorie établie, pour s'assurer que la théorie soit valide sur le plan scientifique.
Ouais.
Si on commandé pour l'instant, est en train de terminer son procès, si le procès confirme qu'il a été licencié de manière correcte et pas de manière abusive, on va avoir un grand problème dans les universités québécoises parce que dès qu'on va émettre une opinion qui pourrait remettre en question les bailleurs de fonds de recherche, eh bien à ce moment-là, il va falloir se taire. Et là, on est dans une situation qui est très, très problématique. Alors, ça ne veut pas dire que les bailleurs de fonds ont nécessairement passé une commande, mais peut-être que la peur de perdre les bailleurs de fonds font en sorte qu'on pourra avoir de la difficulté. Tu sais, j'étais chroniqueur il y a une quinzaine d'années pour un journal qui s'appelle toujours L'Actualité médicale.
Ouais.
Et pendant longtemps, en fait, le journal avait une bonne santé financière. Et puis, il y a un moment donné où ils ont fait un gros dossier par rapport à toute une série d'enjeux par rapport aux compagnies pharmaceutiques, puis il n'y a eu plus aucun annonceur. Donc, le journal en a arraché pendant un an et demi, 2 ans, s'est fait réacheter plusieurs fois, d'accord? Ils ont retrouvé, en fait, une manière d'aller qui est un peu mieux, mais l'actualité médicale ne se permet plus de critiquer les médicaments de manière ouverte, d'accord? Tu vas voir le journal La Presse. La Presse, c'est assez rare qu'ils vont critiquer les médicaments. Éventuellement, ils vont... commenter un article qui est paru, la FDA, mettons, critique un médicament. Alors là, ils vont reprendre l'article de la FDA, mais c'est assez rare qu'il va y avoir des enquêtes par rapport à l'usage des médicaments. Alors, on peut se demander pourquoi la presse est si, comment dire, frileuse. Contrairement au Journal de Québec, le nombre d'articles que j'ai fait avec Sébastien Ménard pour critiquer la consommation de psychotropes, c'est certain que le Journal de Québec se permet peut-être un peu plus d'oser critiquer. Tu l'as vu avec Radio X.
Ça, est-ce que tu as senti de la chaleur quand tu as commencé à critiquer ça au Québec?
Pour moi, pas de manière directe. J'ai juste perdu des amis à qui m'ont dit que je n'avais plus, qu'ils n'avaient plus. En fait, leur employeur a dit qu'ils ne pouvaient plus me parler, ni sur le plan personnel, ni sur le plan professionnel. C'est plus à ce niveau-là que ça s'est joué. Mais je n'ai pas nécessairement senti de la chaleur. Au contraire, je te dirais même, il y avait des compagnies pharmaceutiques qui financent des projets de prévention en tant que tels. Donc, ce n'est pas nécessairement. Le problème dans ce genre d'éléments, c'est qu'il faut faire attention à toutes les nuances. Oui, les compagnies pharmaceutiques, elles ont des actionnaires qui leur mettent une pression incroyable pour faire des bénéfices. Et il peut y avoir des stratégies qui sont parfois questionnables, comme l'achat de Monsanto par Bayer. D'accord? Dans quelle mesure est-ce que Monsanto n'a pas une fonction éventuellement d'avoir créer des produits qui pourraient éventuellement, on ne sait pas, on pose vraiment une hypothèse, avoir des effets sur la santé qui permettraient à des compagnies pharmaceutiques de vendre des médicaments ultérieurement. Donc, il y a des collusions, d'accord, qui peuvent exister. Si elles ne sont pas de manière directe, on peut avoir des fonds comme Vanguard, comme BlackRock, comme StoneRock, qui détiennent un certain nombre d'actions à l'intérieur de compagnies aussi bien de nourriture que de médicaments. Et dans quelle mesure est-ce qu'il ne peut pas y avoir parfois des enjeux qui nous dépassent? Ce n'est pas une question, tu sais, parfois quand on aborde ça, on va dire, ah, c'est de la conspiration. Ce n'est pas de la conspiration, c'est de la finance. Puis à un moment donné, ces gens-là, tu sais, j'ai eu un beau-père, dans le sens que c'était le père d'une de mes anciennes copines, qui travaillait pour une grosse banque belge. Et il me disait, tu sais, rendu à au-delà de 1, 2, 3, 4 millions, moi, je ne comprends pas ce qui est en dessous. Donc, ce qu'on me demanderait de payer $50 pour un pain, c'est rien, $50 pour moi. Donc, il y a une perte de contact avec la réalité. Et ces personnes qui perdent le contact avec la réalité, c'est quoi leur réalité? C'est d'augmenter les profits coûte que coûte pour que leur fonds soit efficace, pour qu'ils puissent gagner des parts de marché avec leurs entreprises et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas nécessairement toujours une mauvaise intention. Tantôt, quand on parlait justement de gens qui perdent la capacité d'être en contact avec l'autre, de ressentir de l'émotion, parfois, c'est la fonction de grands financiers pourrait amener certaines personnes de cette manière-là.
Comment on s'explique ce que Patrick Provost vit actuellement? Parce que moi, j'ai pas la formation académique que tu as, j'ai pas la formation académique des scientifiques qui lui reprochent certains trucs, mais à la base, il était venu dans mon studio pour parler du vaccin qu'on voulait absolument donner aux enfants, puis il me disait que c'était un vaccin qui était expérimental, on ne connaissait pas ce que ça allait amener aux enfants de positif comme du négatif. Puis il disait aux gens, on devrait peut-être attendre parce que sur le plan des séquelles, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui semble lui être reproché, alors que le gars était juste très prudent, là.
En fait, il y a deux choses. Moi, je pense à mon cousin qui est un des plus grands chercheurs généticiens à Paris et qui, lui, travaille avec des enfants en oncologie, des enfants dont plusieurs vont mourir parce qu'on n'a pas de médicaments pour les soigner. Probablement que dans ces conditions-là, des médicaments à base ARNm seraient des solutions qu'il faut expérimenter avec des enfants qui sont condamnés par la maladie. Donc, dans une situation pareille, c'est quelque chose qui se justifie sur le plan de l'éthique. Est-ce que de vacciner mur à mur notre jeunesse, alors qu'il n'y a pas eu d'enfants qui décédaient du COVID et qu'on sait que le vaccin n'empêchait pas la transmission non plus? D'accord, ça, c'est, tu regardes dans tous les documents Pfizer, Moderna et même Santé Canada, il est bien inscrit que ça n'empêche pas la transmission. D'accord, ça peut éventuellement diminuer la charge virale chez certaines personnes. Ça se pose quand même à questionnement, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite? Alors au Québec, on a eu 3 personnes qui sont décédées en dessous de 30 ans. On a une jeune fille de 15-16 ans qui est décédée à Sainte-Justine, mais les médecins sont sortis dans la presse avec l'autorisation de la famille en disant cette jeune fille-là, elle était condamnée. De toute façon, on n'avait aucune chance de poursuivre sa vie. Le COVID n'a fait que d'accélérer son décès, mais elle ne pouvait pas survivre.
Mais est-ce que
un jeune obèse, mais plus que obèse, de 21 ans, et on a eu un homme de 29 ans qui officiellement est mort de la COVID, mais en fait, le manque de peau, c'est parce que je connais une information, j'ai supervisé des infirmières qui ont traité cette personne-là, et en fait, cette personne-là, elle est décédée d'une overdose de cocaïne.
Ah.
Et malheureusement, le Journal de Québec et le Journal de Montréal, qui en ont beaucoup parlé, se sont fait un petit peu, sont fait duper par une personne qui s'est prétendue proche de cette personne-là. Et c'est en fait, cette personne-là est connue pour pouvoir avoir certaines fréquentations.
Ah!
Et donc, d'offrir en échange d'argent de la poudre, tu sais, du sucre palpable.
Ouais, ouais. Ouais.
Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que la formation est allée trop vite, mais on a gonflé ça. Alors, quand tu vois qu'il n'y a pas de jeune de moins de 30 ans, à part une exception où la personne est décédée, est-ce que ça vaut la peine de prendre un médicament, de dire que c'est un vaccin et de l'inoculer à tout le monde? Et c'est certain que moi, je n'aimerais pas être à la place de Christian Dubé ou de François Legault qui ont dû prendre cette décision-là, de le faire ou de ne pas le faire. C'était, une grosse décision, mais on les a élus pour ça. On a demandé à ce que ces gens-là soient au gouvernement. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne jetterai jamais la pierre à notre gouvernement par rapport à ça. Là où je me questionne, c'est la manière dont les scientifiques ont travaillé, la manière dont les scientifiques se sont questionnés, la manière dont les scientifiques, parce qu'un recteur et un vice-recteur, ce sont des scientifiques, la manière dont ils se comportent vis-à-vis de Patrick Provost. Je crois qu'on a besoin de réfléchir à tous nos enjeux. Je pense que nos universités québécoises sont beaucoup trop dépendantes de l'industrie. C'était quelque chose qui était prévisible depuis plus de 20 ans. Moi, c'est pour ça que j'ai fait une carrière alternative, parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance de travailler avec Jean Rochon, au moment où les industries ont commencé à rentrer dans les universités sous forme de chaires de recherche et subventions de plus en plus généreuses. Et c'est certain que, tu sais, on a le même problème avec l'OMS. L'OMS qui travaille avec Bill Gates qui donne des millions de dollars pour pouvoir développer des programmes de santé pour venir en aide à des pays qui ont vraiment besoin d'aide. Mm-hmm. Puis après, à quel moment l'amitié entre le boss de l'OMS ou le boss d'un gros donateur peut faire en sorte que des décisions qui pourraient être éventuellement orientées parce qu'ils se font confiance mutuellement et ainsi de suite. C'est, l'erreur des conspirationnistes, c'est souvent d'avoir imaginé qu'il y a quelqu'un de tordu tout en haut de l'échelle qui a décidé qu'il va faire ceci, cela. Je pense que c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus nuancé, en fait.
Ouais. Mais est-ce que nos scientifiques du Québec, en voyant ce qui se passe avec Patrick Provost, là, est-ce que nos scientifiques du Québec ont encore une autonomie scientifique?
Ben, ça va être altéré par la décision finale qui sera prise par le tribunal. C'est que si le tribunal confirme que c'est un licenciement correct, ben, ça voudra dire qu'il va falloir faire très, très attention à notre manière de pouvoir questionner, en fait, pas la stratégie du gouvernement, mais certains outils, certaines substances qui pourraient être créées. À l'époque où, je te nommais, je m'étais déjà intéressé à l'affaire, j'ai rencontré des chercheurs. Tu sais, Jean Rochon m'avait demandé avec une douzaine de personnes proche de moi. En fait, il me l'avait demandé, mais moi, j'ai fait un groupe de 12 personnes pour qu'on puisse réfléchir à tous ces enjeux-là. Et on a rencontré des professeurs où j'ai vu des lettres de menace de la part d'industrie et qui disaient, attention, si vous continuez à faire de la recherche sur telle chose, on va vous poursuivre en justice. Donc, ce sont des plans de Bayon qui peuvent être là. De nouveau, l'industrie, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut plaire à ses actionnaires. Donc, quelqu'un qui a une voix dissonante devient problématique. Donc, les plans de Bayon vont servir à ça. Et je crois que normalement, la science devrait nous protéger beaucoup plus. Jean Chrétien a abandonné les laboratoires nationaux qui devaient normalement travailler pour Santé Canada pour contre-vérifier les prétentions des entreprises à faire ou ne pas faire un médicament qui est de bonne ou de mauvaise qualité. Donc, on n'a plus les laboratoires nationaux, on a de moins en moins les laboratoires universitaires. Alors, est-ce qu'on doit faire confiance aveuglément aux entreprises pharmaceutiques pour être certain que le médicament ne peut pas avoir de problème? Quand tu regardes le Vioxx, qui est un médicament qui a été retiré du marché en 2005, il a fallu plus de 150 000 morts pour qu'enfin, il y ait une enquête qui soit ouverte.
Ça, c'est pas le médicament qui donnait des problèmes au fœtus, là. C'est pas ça.
Non, ça, c'est le c'est la... Attends, ça, c'est la...
Ça va
la thalidomide.
La thalidomide,
oui,
voilà.
Ce n'est pas parce que j'avais le mot européen en tête, mais au Québec, c'était la thalidomide. Mais donc, en fait, non, c'est ça. Mais le Vioxx, c'était un médicament qui était donné pour les problématiques, si je me souviens bien, cardiaques. Et il a fallu environ 150 000 morts pour qu'on puisse arriver à enquêter. Et puis, c'est comme ça de beaucoup de médicaments. Alors, si on ne peut plus parler comme scientifique, si on ne peut plus se questionner, parce que Patrick, il est allé se faire vacciner. Et il a adhéré aux mesures sanitaires. C'est après, quand il a vu, oh, quels sont les effets secondaires sur mon corps, il a fait une analyse, je crois, de son propre sang et dit, OK, il faudrait peut-être faire attention. Nos jeunes ne sont pas à risque. Donc, posons-nous la question. Donc, si les chercheurs ne peuvent plus se poser des questions éthiques, mais c'est certain que ça va faire en sorte que la liberté de parole va être l'autre. Puis, les ordres professionnels ont joué de la même manière parce que parfois, c'est les ordres professionnels qui ont empêché les gens de parler. Puis, tu parlais tantôt de Marc Lacroix. Marc Lacroix, en fait, il a critiqué l'OMS, mais en même temps, l'OMS, c'est une organisation politique, c'est pas une société savante.
Exact.
Donc, quelque part, c'est normal de la critiquer. Alors, ouvertement, il a été enquêté là-dessus parce qu'il y a une plainte qui a été adressée à lui, mais à la base, le Collège des médecins ne voulait pas aller au conseil de discipline. Ouais. Il ne voulait pas aller plus loin. C'est une plainte privée. Ouais, c'est Olivier Bolduc. Pourquoi Olivier Bolduc l'a fait? Ben, c'est quand même curieux qu'en même temps, il essaye de se placer à l'intérieur d'un parti politique.
Le Québec solidaire. En fait, il y a une guerre interne là, entre une station de radio de Québec et un parti politique qui est Québec solidaire dans ce cas-ci. Puis c'est Olivier Bolduc, effectivement, qui avait fait une plainte. Et si tu te souviens bien, il est arrivé des affaires curieuses là, dans l'affaire avec Marc Lacroix, puisque Olivier Bolduc avait ses propres experts et un de ses experts a donné un compte-rendu de son travail à Bolduc et Bolduc a réécrit le travail et en plus de faire la propre conclusion de ce dit travail-là, ce qui fait en sorte que la preuve ne pouvait pas être retenue en cours. Mm-hmm. Puis, donc, il y a eu de la falsification de preuves. C'est assez particulier ce qu'on a fait au Doc Lacroix. Puis je trouve ça dommage parce que c'est un gars qui avait un franc-parler, le Doc Lacroix. Il a une super de belle entreprise. C'est appelé à croître son entreprise comme pas possible. Mais on en perd un bon communicateur, tout comme toi, d'ailleurs.
Et c'est un bon gars. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de souper avec lui. On est devenus des amis. Et oui, c'est une bonne personne. Et quelque part, je crois que les ordres professionnels doivent faire attention à revenir à leur mission, qui n'est pas d'endoctriner le monde, mais qui est de vérifier est-ce qu'il y a ou non un risque pour la population. Et quelque part, recevoir une demande d'enquête, n'importe quel citoyen peut faire une demande d'enquête, c'est correct. Ça fait partie du processus. Mais est-ce qu'on peut déterminer que le public a été mis en danger? Et critiquer l'OMS, est-ce qu'on met le public en danger? Donc la plainte ou la demande d'enquête ne devrait même pas aller plus loin. Ça devrait s'arrêter là. Et ça, il y a plusieurs personnes. Tu sais, c'est différent. Dont il y a eu notamment des chiropracteurs qui ont été sanctionnés par leur ordre professionnel parce qu'ils avaient refusé de mettre un masque alors qu'ils travaillent proche d'une personne ou parce qu'ils ne voulaient pas mettre de savon pour que les personnes puissent se laver les mains au moment d'entrer dans leur clinique. Ça faisait partie des règles élémentaires de base pour essayer d'éviter le fameux geste barrière pour éviter. Donc là, que ces personnes-là soient sanctionnées, il y a une logique là derrière parce que quelque part, ils auraient pu contribuer à la transmission du virus. Mais si je reviens dans ce que Marc Lacroix a nommé à la radio, il n'a pas mis le public en danger. Et ce qu'il y a de plus embêtant, c'est que Marc Lacroix n'est pas dans son bureau, d'accord, au moment où il est à l'antenne, et il y a une psychiatre qui, elle, a été enquêtée parce qu'elle a harcelé plusieurs personnes sur Internet. Et la réponse du syndic a été, ben, comme les personnes ne sont pas ses patients et qu'elle n'est pas dans son bureau clinique pour pouvoir critiquer les gens sur Twitter ou sur Facebook, eh bien, à partir de ce moment-là, on n'ira pas plus loin, on n'enquêtera pas. Donc, d'un côté, on va reprocher à Marc Lacroix ou à Robert Béliveau d'avoir rassuré les gens en analysant autrement les données scientifiques pour que les gens puissent vivre moins d'angoisse. Puis Robert, c'est aussi une personne fantastique, tu sais. Et Robert, en fait, est actuellement en conseil de discipline parce qu'il a essayé de rassurer le monde, alors que cet psychiatre-là, eh bien, il n'y a absolument rien. Et pire, c'est que le syndic qui a enquêté sur cette femme-là s'est servi d'un livre et pas de la loi canadienne sur la définition même du harcèlement moral. Donc, on voit que ce n'est pas égal et que là, il y a des enjeux. Puis, de nouveau, pourquoi est-ce que des gens qui vont harceler ou qui vont abuser de leur pouvoir médiatique pour faire peur au monde ont moins de chances de se faire enquêter, alors que quelqu'un qui émène, comme Marc ou comme Robert, plus de discernement, d'accord, ben pourquoi ces personnes-là sont enquêtées? De nouveau, le peuple n'est pas en danger.
Ouais.
Donc, les enquêtes n'auraient pas dû se faire.
Est-ce qu'on va en venir à un moment où on n'aura plus le droit d'avoir des professionnels en onde, qu'ils soient scientifiques ou encore des professionnels comme toi, parce que ces gens-là vont avoir trop peur de leur ordre, de se faire ramasser constamment parce qu'ils donnent leur opinion? Je me souviens d'un médecin que j'ai eu il y a de ça quelques années. Je vais brouiller un peu les cartes pour qu'on ne soit pas capable de le retracer. Mais lui m'avait clairement dit en onde, écoute, on essaie de faire accroire aux gens par l'entremise des médias ou encore de la publicité qu'être obèse, tu peux être en santé. C'est le pire mensonge qu'on raconte actuellement au Québec, mm-hmm. qu'un obèse puisse être en santé. Ce n'est pas vrai. Il va développer probablement, si ce n'est pas là, dans les prochaines années, des problématiques, que ce soit physiques, au niveau moteur ou encore pour ce qui est du reste. Puis il m'avait rappelé le soir pour me demander de retirer l'extrait parce qu'il y avait eu des plaintes à son cabinet.
Oui.
C'est fou, là. Lui oui, avait peur d'avoir des problèmes parce qu'il s'est exprimé, parce qu'il avait dit une vérité.
Oui, parce que ça va être considéré comme la grossophobie. Et je te dirais, 89% des gens qui sont décédés pendant la COVID, où que ce soit dans le monde, étaient obèses. 89%. Donc, une des choses qui était majeure à faire pendant la pandémie, avant qu'on ait le vaccin, c'est de dire aux gens, prenez soin de votre santé, faites du sport, mangez bien, rééquilibrez-vous.
Mais on a fermé le gym.
Mais de nouveau, il y a une logique pour éviter que ça se transmette, oui. Mais on aurait peut-être pu encourager les gens à aller dans les bois. Mais on a fait tellement peur aux gens. Écoute, moi, je vis dans les Laurentides, puis tu n'avais pas intérêt à aller dans un bois ou dans un parc qui n'était pas dans ta municipalité.
Ah ouais.
Parce que tu as la police vérifiée, tu devais montrer ton permis de conduire pour t'assurer. Donc, si tu habitais à Sainte-Marguerite, tu n'avais pas le droit d'aller à Saint-Sauveur ou à Saint-Adèle. Tu sais.
Passport.
C'est parce qu'on a fait beaucoup trop peur. Et oui, il y a des enjeux par rapport à là. Alors, je crois que quelque part, on doit faire très attention dans la manière de pouvoir nommer les choses, mais je te dirais qu'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné mon permis il y a 2 ans, c'est de retrouver mon droit de parole, c'est de retrouver ma capacité de pouvoir nommer des choses. Moi, je suis un scientifique, je suis sans, j'ai pas de conflit d'intérêt. Pour moi, la justice